C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi? C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Bonjour, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, une émission particulière au sujet d'un dispositif original auquel participe une trentaine d'artistes de la région nantaise, de la région des Pays de la Loire, on peut dire. Voilà, parmi eux, des conteurs et des conteuses, certes, mais aussi des chanteurs, chanteuses, et également des comédiens. Voilà ce que l'on peut dire, donc on va en savoir un petit peu plus. On aura au bout du fil Angèle Gauduchot, on aura également Aurel Salmon, et on entendra quelques moments d'intervention d'artistes. C'est parti!
Allô, Florel ?
Oui, bonsoir, Odile.
Bonsoir, Florel. Alors, tout d'abord, merci. Hein, on ouvre le feu toutes les deux, c'est super.
Merci. D'accord.
Merci d'avoir dit OK pour faire ce petit bout de chemin ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup, plein de textes. Donc,
d'accord.
je ne fais pas, quand j'interviens comme ça, je ne me fais pas un scénario en disant « alors je vais commencer par ce texte-là, puis après je vais faire celui-là, puis après je vais faire celui-là », parce que ben, j'y arrive pas, tout simplement.
Mm-hmm.
Donc, en fait, ben, je mets mon auditrice ou mon auditeur à contribution. Donc,
d'accord.
Florel, d'abord, es-tu bien installée ?
Oui.
Bon, d'accord, tu t'es préparée. Très bien. Alors, j'ai des textes devant moi. J'en ai 6 exactement. Je ne vais pas évidemment tout lire. Donc, quel texte choisirais-tu entre le numéro 1 et le numéro 6 ?
Je vais prendre le texte numéro 5.
Le texte numéro 5. Alors, le texte numéro 5, c'est un extrait d'un livre qui a été écrit par Matéi Wichniec. Et c'est exactement, le titre, c'est « Histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort ».
Ah, waouh.
Déjà, rien que le titre. Et voilà. Lui. Je veux t'épouser. Elle. D'accord. Lui. Tu n'es pas mariée, j'espère. Elle. Non. Lui. Parfait. Lui. Alors ? Elle. Alors quoi ? Lui. Est-ce que tu veux être mon épouse ? Elle. Mais tu n'es pas mariée, j'espère. Lui. Non. Elle. Parfait. Lui. Alors ? Elle. Alors quoi ? Lui, on se marie ? Elle, oui. Lui, je veux qu'on le fasse tout de suite. Elle, d'accord. Lui, maintenant. Elle, maintenant ? Lui, maintenant. Elle, aujourd'hui. Lui, pas aujourd'hui, maintenant. Elle, maintenant ? Lui, oui ? Elle, d'accord. Lui, alors ? Elle, alors quoi ? Lui, on le fait ? Elle, oui ? Lui, parfait. Lui, il nous faut un témoin. Elle, si on veut ? Lui, t'as raison, on n'a pas besoin de témoin. Elle, non ? Lui, très bien. Lui, on n'a besoin de personne. Elle, non ? Lui, très bien. Elle, mais il nous faut un peu de cérémonial quand même. Lui, On peut monter sur le toit, si tu veux. Elle, d'accord. Il ouvre la trappe du plafond et il monte sur le toit. Lui, tu es prête? Elle, oui. Lui, tu es sûre? Elle, oui. Lui, je te demande pour la dernière fois, tu es sûre? Elle, oui. Lui, alors je nous déclare mari et femme. Elle, oui. Le téléphone sonne, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, puis les appels cessent. Voilà pour le premier texte.
Ok, merci.
Pour la demande en mariage. C'est joli de se marier sur le toit.
Oui, puis de se marier aussi simplement aussi.
Aussi, tout à fait. Absolument.
Odile Bouvet, au bout du fil. Anne Galgaud-Duchaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as eu l'idée de monter un dispositif qui s'appelle Histoire au bout du fil. Qu'est-ce que c'est que Histoire au bout du fil et quelle est sa naissance?
Eh bien, ce dispositif est né au départ dans ce contexte dont on se souvient, qui est le contexte des confinements. On s'est aperçu, et la fondation de France notamment avait publié un rapport sur les dégâts que cause l'isolement, la solitude, et sur le fait que ça augmente, pas seulement pendant les confinements d'ailleurs, mais depuis 10 ans, ça ne cesse d'augmenter, le sentiment d'être isolé. Et je me suis dit, bon, nous, comme, comme artistes, avec nos outils d'artistes, est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et j'ai pensé que avec l'imaginaire, on peut beaucoup. On peut voyager beaucoup. On peut, s'échapper, s'évader. Et puis, le lien direct de personne à personne, le lien chaleureux... au téléphone, c'est vraiment bien. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer que des artistes du spectacle vivant fassent du spectacle vivant, mais au téléphone, et disons, chaque représentation serait sur mesure et en fonction du contact qu'on a avec les gens. Donc j'en ai parlé à la compagnie La Lune Rousse. On a discuté beaucoup de tout ça, mais finalement, je les ai convaincus. Et donc, le dispositif se présente maintenant comme ça. Il y a une plateforme Internet, comme Doctolib, tu peux venir prendre rendez-vous. Et puis, le jour où tu as pris rendez-vous, à l'heure dite, un artiste t'appelle. Voilà, et donc, c'est des petits souffles d'art... Au creux de l'oreille. Ouais, c'est donc des compteurs.
Alors, je crois qu'il y a 30 artistes régionaux sur cette affaire, sur ce dispositif, qui se sont regroupés autour de l'idée que tu as eue initialement.
Oui.
Et ça représente beaucoup de monde. Je crois qu'ils sont assez enthousiastes.
Oui. Bah, c'est 30 artistes. Donc, on a fait trois équipes, trois teams. La team des compteurs et compteuses, la team des musiciens, chanteurs, chanteuses, et puis celle des comédiennes et comédiens. Avec quelqu'un qui est un peu responsable de chaque équipe, disons, de l'animation de chaque équipe. C'est tous des professionnels du spectacle vivant. Et voilà, ils s'invitent avec les œuvres qu'ils défendent, disons, dans la vie de tous les jours, à la pause déjeuner au bureau, dans le lit d'hôpital, dans le week-end avec les enfants, dans les soirées solitaires, je sais pas, en cité universitaire, en maison de retraite, voilà, partout. Et ils proposent des programmes... sur mesure, quoi. Et les gens qu'on a au bout du fil sont quelquefois des personnes qui souffrent d'isolement, ou bien des gens qui ont besoin juste d'un moment de pause, de douceur, d'un moment pour eux. On sait aussi, on a découvert d'ailleurs avec le dispositif l'augmentation des burn-out parentaux, burn-out tout court et des burn-out parentaux, des gens qui ils en peuvent plus, quoi. Donc un moment de pause juste pour toi, quelquefois c'est vraiment salutaire, c'est très bon à prendre, enfin aussi toute personne curieuse qui a soif de découvrir des œuvres, des artistes, des pépites littéraires, des récits de tradition orale, des chansons, bref, tout le monde. C'est en fait un rendez-vous privilégié entre une personne et un artiste.
Alors, je sais qu'il y a quelques-uns qui, au départ de ce dispositif, se sont posé la question. Ils ont dit, ah, mais alors, donc, alors c'est de l'audio, c'est que de l'audio. Il n'y a pas d'image. Alors, et est-ce que pour autant, alors du coup, est-ce que c'est du spectacle vivant? Alors, quel est ton point de vue là-dessus?
Ben, on peut...
Ton constat aussi.
On peut interroger Aurel, par exemple, là-dessus.
Alors, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Aurel Salmon, chanteuse.
Chanteuse, et je connais une Anne-Gaëlle Goduchaume qui m'a dit un jour que si elle était conteuse de chansons, je devais sûrement être chanteuse d'histoire.
C'est ça. Si je me souviens bien, cette idée-là, au départ, de dire, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire au téléphone?
Oui, avec un côté un petit peu sceptique, parce qu'on était en train de nous dire qu'on n'était pas essentiel, donc avec un petit côté, du coup, on en est rendu à faire notre boulot au téléphone, et la découverte, en fait, d'une véritable dimension. Voilà, on croyait que c'était réducteur, et en fait, c'est l'inverse de réducteur, c'est agrandisseur.
Donc toi, par exemple, de quelle manière ça t'a fait agrandisseur?
Alors, ça m'a fait agrandisseur parce que j'aime bien dire que ça a remis au goût du jour le sens premier du téléphone, qui est Louis. Aujourd'hui, un téléphone, on le regarde. On le regarde parce qu'on écrit, on le regarde parce qu'on lit, on le regarde parce qu'il y a des photos, parce qu'il y a des vidéos, et on ne l'écoute plus. Donc, il n'y avait plus sa dimension auditive, sa dimension d'ouïe. Donc, la redécouverte de ce sens. Tout d'un coup, chanter, parce que je chante au téléphone au creux de l'oreille quelqu'un, ça prenait un nouveau sens, une nouvelle direction. Je prenais conscience de ce que c'était que d'être écoutée comme ça, aussi précisément, aussi chirurgicalement. Et j'ai appris à chanter différemment. J'ai appris à chanter doucement, en murmurant, en chuchotant, parce qu'au téléphone, il n'y a pas besoin de brailler, de gueuler, même si c'est bon de gueuler sur une scène, mais on n'est pas sur une scène, on est dans une autre dimension. Mmh. Voilà. Donc j'ai appris à chanter dans une autre dimension.
Et donc dans cette écoute précise, personnelle, ça change quelque chose ? Par exemple, quand tu chantes, tes textes, par exemple.
Alors ce qui change, c'est que j'aime bien, pour commencer en douceur, non pas que mes propres chansons ne soient pas douces, mais j'aime bien commencer par des choses qui peuvent être un peu plus connues. Donc je ne suis qu'interprète. Et puis je glisse au gré de ce climat que j'installe avec des chansons qui sont connues et qui rassurent. On sait bien ce que ça fait des chansons connues, ça. C'est confortable. Et donc je vais glisser des choses qui sont à moi. Et là, tout d'un coup, quand on fait le petit bilan, après 20 minutes, une demi-heure, c'était quoi la chanson du milieu là qui parlait de... me demande l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Et là, je dis, c'est à moi, c'est une chanson de moi, c'est de moi. Oh ! Et là, il se passe aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'on peut glisser ses propres chansons, ses propres textes dans un univers qui est déjà l'univers des gens, mais de mettre comme ça une petite touche étrangère, ça passe très bien.
Tu as envie de faire quelque chose, peut-être un spectacle de cette expérience et de rencontrer les autres artistes de Histoire au bout du fil, sans doute pour collecter leurs témoignages. Hein. Alors pourquoi ?
Parce que ces artistes qui pour la plupart racontent des histoires aux auditeurs, très vite se sont mis à raconter l'histoire de ce qu'ils vivaient eux-mêmes, en racontant tout ça au téléphone. Et c'était une espèce de mise en abîme. C'est-à-dire que les raconteurs d'histoires racontaient leur propre histoire en train de raconter des histoires. Et j'ai trouvé que ça avait là aussi une dimension très chouette et un charme, une saveur que j'ai voulu collecter. Voilà. En disant comment cette chose inédite, qui est inédite pour les auditeurs, mais qui est totalement inédite également pour les raconteurs et les chanteurs, comment ils le vivent dans cette période-là? Comment on vit cette histoire-là? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même une expérience nouvelle à chaque fois, puisque moi, j'aime bien dire aux gens au téléphone, je vous préviens, on va vivre un truc de dingue. Ce qui va se passer là, entre nous, ne s'est pas passé avant et ne pourra plus se passer après, parce que ce sera d'autres gens, à d'autres heures dans l'année. Et ce côté inédit, unique... J'aime l'idée de le fixer et peut-être de le restituer après.
Qu'est-ce qui ressort de ces témoignages ?
Une idée un petit peu globale qui est que, après effectivement une certaine méfiance ou scepticisme quant à ce dispositif, ça ne nous a pas empêché de signer et d'y participer, mais la découverte en fait de l'importance que ça a pris, je pense, dans nos pratiques d'artistes. C'est pas un pis-aller, c'est pas un remplacement, c'est un complément extrêmement enrichissant de ce qu'on fait par ailleurs. Mmh. Voilà. Ce plus. Voilà. Mmh. Mmh. Et ça, on le retrouve. On le retrouve parmi des anecdotes qui sont aussi touchantes que farfelues, que émouvantes, que à pisser de rire. Voilà, il y a tout ça. Et c'est très enrichissant pour le reste de notre travail.
Tu as l'impression que ça t'apporte quelque chose en tant qu'artiste de scène ?
Ah oui, moi je le dis et je le fais haut et fort. Il y a un avant et un après Histoire au bout du fil. Je ne chante pas de la même manière, comme si je me retrouvais en imaginant que voilà, il y a 50, 80 personnes, 100 personnes devant moi, comme si je chantais devant 100 fois une personne.
C'est joli.
Et ça fait pas pareil.
Ouais.
Ça fait pas chanter pareil.
Une des choses qui me touche souvent, c'est quand les gens disent « Mais, on se connaît pas, mais comment ça se fait que vous avez choisi ce texte ou ce... » C'est curieux, ces petits miracles-là.
Oui, oui, le secret des ondes. Le secret des ondes, quoi. Des choses qui circulent, qui passent, qui vont directement là où, au cœur de la cible. Oui, il y a par rapport à ça, des expériences des uns et des autres qui sont assez bluffantes, perturbantes, émouvantes. Pourquoi tout d'un coup, une première chanson qu'on va chanter, la dame nous dit « Comment vous savez ?» Mais comment je sais quoi ? Comment vous savez que c'est la chanson sur laquelle j'ai rencontré mon mari et qui est ma chanson préférée ? Et c'est une chanson qu'on a pris comme ça, au gré de l'inspiration. Alors ça commence fort, hein, qu'il faut tenir une demi-heure comme ça. Ouh, déjà ça met le niveau d'intensité de liaison. Voilà, ça fait partie de... des choses magiques.
Oh. Voilà, merci beaucoup Aurèle Salmon pour ce témoignage au téléphone. Et puis à très bientôt.
Bonne journée.
Merci, à vous aussi.
Et voilà, bonsoir à vous Monsieur Huchet, ou Yannick
bonsoir,
peut-être
c'est assez.
Ah oui c'est ça, je me trompe, ça commence bien. Yannick, ça je me trompe oui. Pas, je sais que c'est Yannick. Alors ouais. Moi je suis Gérard Guérif, on va passer un petit 20 minutes ensemble pendant ce petit instant-là, on va faire un petit voyage ensemble, complètement subjectif, parce que dans ce rapport d'histoire au bout du fil, pour que ça fonctionne, l'un dit et l'autre écoute, mais on fera une petite interaction pour que vous ayez aussi la possibilité de réagir sur le petit voyage que je propose là, de façon un peu comment dirais-je, variée. On a déjà commencé en fait, c'est juste une petite intro, c'est juste une petite une petite forme pour s'apprivoiser. On n'a que la voix et l'oreille pour être ensemble dans ce temps-là. Comment vous vous êtes installé? Comment c'est là pour vous dans cette petite bulle? C'est
au 18e étage, donc je regarde la ville, je vois toutes les lumières.
Yes.
Et je suis dans un fauteuil devant la fenêtre.
Waouh, 18e étage.
Je vois le pont à Barline et les voitures.
OK. D'accord, c'est important d'être c'est bien, j'aime bien aussi les géographies et les lieux. très bien. Un petit café, une bière, un thé, quelque chose.
Non, j'ai un verre d'eau. C'est très sobre cette affaire.
Ouais, d'accord. Très bien. J'avais envie de vous faire entendre un premier petit bout qui serait celui-ci avec Baudelaire, si vous êtes d'accord.
OK.
Quand vous êtes prêt, je suis prêt.
Je suis prêt.
Bien. Ce serait notre intro. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Et si, quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fait, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise.
Merci.
Ça va ?
Bah oui, très bien, ça donne envie de boire un verre de vin, par contre, terriblement. Mais ça va très bien.
En ce qui me concerne, bah, j'étais sûre que c'était possible. Mais bon, je ne l'avais pas testé non plus. Donc on a fait beaucoup, beaucoup de tests déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on a lancé dans la nature comme ça. On a fait beaucoup de tests entre nous. Moi, j'ai joué beaucoup la personne acariâtre au bout du fil, ou bien qui comprend rien, ou bien qui n'entend pas, ou bien qui a juste envie de parler de son bobo au genou, voilà. Ou bien voilà. On a beaucoup fait de tests parce qu'il s'agit pas seulement d'artistes qui sont des artistes reconnus pour la qualité de leur travail et leur talent et tout ça, mais c'est aussi des artistes qui sont capables d'être en relation, c'est pas rien. Voilà, donc on a fait beaucoup de tests pour voir, notamment par exemple, on s'est aperçu que pour les musiciens, les chanteuses, les chanteurs, c'était la plupart du temps impossible qu'ils chantent avec leurs instruments parce que ça passe mal. Donc on a, c'est très émouvant je trouve d'entendre quelqu'un qui chante pour moi a cappella, les artistes acceptent d'être dans cette fragilité-là, de ne pas être avec leur boys band derrière, là, avec leur...
dans cette intimité-là.
Et
quoi,
dans cette, ouais, guitare, dans cette fragilité, cette intimité-là. Et on a découvert tous, le côté très touchant de ces rencontres. Pour les comédiennes, comédien. Il y a aussi un autre aspect que j'avais pas en tête au début, mais qui est vraiment intéressant, c'est que quand on est comédien, quand on est comédienne, on est un artiste au service de la vision d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène, souvent un. Sans vouloir mettre l'huile sur le feu, c'est souvent une comédienne et un metteur en scène, voilà. Et on se met au service d'une vision pour laquelle on n'a pas grand-chose à dire. On défend notre partition, disons. On a cette responsabilité de rentrer dans une écriture et dans un personnage, mais sous la direction de quelqu'un qui, lui, est chargé de porter la vision. Oui. Voilà. Et donc, dans ce dispositif, les comédiens, les comédiennes construisent leur programme. Font entendre des textes, des œuvres qu'elles choisissent, qu'ils choisissent. Et donc, il y a vraiment aussi cette satisfaction d'être à ce moment-là, dans les histoires au bout du fil, porteur, porteuse d'une vision et d'avoir la responsabilité, on pourrait dire, d'un programme. C'est vachement bien. En tout cas, les comédiennes ont pas mal témoigné du plaisir de faire ça, pas leur travail habituellement, qui n'est pas de leur responsabilité habituellement.
Bon, alors on va parler un petit peu gros sous maintenant.
Ah bon ?
Ben oui, parce que en fait, dans ce que je comprends, quand Histoire au bout du fil fonctionne, il y a un artiste pour un spectateur.
Oui.
Et la question qu'on peut se poser, c'est financé comment ?
Eh bien, on cherche encore, on pourrait dire, notre modèle économique pour pouvoir perdurer, disons. Au début, ça a été beaucoup financé par des subventions publiques, en fait. Puisqu'on a démarré en plein confinement, c'était des aides d'urgence. La DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, a beaucoup aidé le département, la région, la ville de Nantes, le CCAS de la ville de Saint-Herblain. Enfin, il y a eu pas mal de subventions publiques. Et puis aussi des achats, maisons de retraite, des festivals, voilà. Alors dans les subventions, on pourrait dire, ou on pourrait dire mécénat, partenariat, subvention, quoi, il y a aussi la CAF.
Oui, la caisse d'allocation familiale.
La caisse d'allocation familiale, ça a été vraiment important.
Oui,
ouais.
Oui.
On espère, c'est la CAF de Loire-Atlantique pour le moment. On espère convaincre la CAF des autres départements de la région. La fondation pour la lecture, la fondation du Crédit Mutuel aussi, voilà. Et puis, donc quand je dis qu'on cherche notre modèle économique, c'est qu'évidemment, les autorités publiques, disons, nous ont aidés assez volontiers et ont changé un peu leurs habitudes. Par exemple, au département, ils se sont mis ensemble le côté, le service, disons, culturel, spectacle vivant et le service plus
solidarité,
aide à la personne. Ils n'avaient pas vraiment l'habitude de collaborer. Ils ont travaillé ensemble. C'était intéressant de voir que ça pouvait marcher ensemble. Bon, donc ils ont un peu changé leurs habitudes pour nous. Mais au bout du compte, une fois le confinement et l'urgence terminée, on s'est retrouvé à nouveau devant, votre truc, on ne sait pas dans quelle case le mettre. Ce n'est pas une représentation, il n'y a pas une création avec une date de création dans un théâtre et quoi. Donc on ne peut pas dire que ça soit une aide à la création qu'on peut vous donner. Ce n'est pas non plus une aide à la tournée puisque vous ne tournez pas. Est-ce que c'est le livre ? Ce n'est pas seulement le livre puisqu'il y a aussi des chanteurs et des gens de l'oralité. Donc comment on peut vous aider ? Et on se retrouve à nouveau avec une difficulté là du côté des services publics, on pourrait dire. Et puis nous, on a envie que ça se développe, l'achat. Donc il y a des achats, il y a des dons. Et je peux profiter du micro là, pour dire ça. Vous pouvez aider, y compris, vous savez, à la manière des cafés suspendus qui se développent de plus en plus. C'est vachement bien ça. Tu viens dans un bistrot boire un café, tu payes ton café et puis le café de quelqu'un qui viendrait et qui n'aurait pas de sous pour le payer. Oui, oui. Ça existe dans des restaurants aussi. Tu payes une entrée, un plat, un dessert, n'importe. On pourrait imaginer qu'il puisse y avoir comme ça des histoires suspendues, c'est-à-dire que tu donnes un peu de sous pour que les autres puissent en profiter. Mais je pense au festival qui pourrait maintenant intégrer dans leur pratique le fait que tout le monde ne peut pas se déplacer dans les lieux, mais qu'il y a des gens qui aimeraient participer à l'événement, à la vie sociale, tout ça, et qui pourrait pas bouger. Donc,
il y a quelque chose d'important, je crois, aussi à dire, c'est que ces aides publiques ou parapubliques sont indispensables. C'est ce qui a permis, en fait, que toutes les histoires au bout du fil sont gratuites pour les gens qui les utilisent.
Oui, hein, ça a permis de payer des choses qui ne sont pas directement le travail des artistes, mais qui sont, par exemple, la construction, la création de ce site Internet, de cette plateforme Internet, qui est très bien faite, très, très simple, très responsive. Et puis, l'agence qui a fait ça, il règle au fur et à mesure le site pour que ça soit de plus en plus facile d'utilisation. Par exemple, ça. Et le fait que, en dehors d'événements, disons, de temps fort qui seraient payés par d'autres, eh bien, il y a toujours une espèce de continuité comme ça, on peut prendre des rendez-vous tout le temps. Donc voilà. Et que l'aspect financier ne soit pas le frein. Il y a déjà un frein, hein, il faut passer par Internet. Donc quelquefois, il faut qu'il y ait des médiateurs, des gens qui prennent les rendez-vous pour les vieilles personnes, par exemple.
On sait bien que les gens un peu âgés ne sont pas des champions en bureautique.
Mais oui, oui. Et puis tu peux aussi être malvoyant, ouais. et puis tu peux aussi. Enfin, il y a plein de raisons. Donc, on a besoin souvent de gens qui font la médiation déjà pour ça. Mais on ne voulait pas que l'aspect financier soit un frein supplémentaire. Donc, oui, le service public aide à ça.
Bon, très bien. Ouais. Alors, il y a aussi dans les développements qui ont eu lieu en post-Covid, on peut dire ça, il y a eu un travail avec les maisons d'édition.
Oui.
Tu peux nous en parler ?
Depuis le début, et c'est un travail à continuer. Hein, mmh. On manque de personnel et de temps en réalité pour développer tout ce qu'on aurait envie de développer avec les histoires au bout du fil. Mais il y a un travail avec les maisons d'édition de la région Pays de Loire, il y en a beaucoup, qui font vraiment des choses super. Et on a envie de les intégrer, d'intégrer les maisons d'édition et les auteurs qui écrivent ici en Pays de Loire. Dans ce dispositif, de manière à les faire connaître du public. Voilà. Donc la première maison d'édition avec qui on a fait un partenariat, ce sont les éditions Pneumatiques, avec qui ils nous ont donné l'autorisation de puiser dans tout le répertoire, ce qui est bien, ouais. Les droits, quoi, de faire ça. Et puis, on s'est intéressé particulièrement à une collection aux éditions Pneumatiques qui s'appelle les OLP, objets littéraires postaux, qui sont des petits textes, des poèmes ou des nouvelles courts.
Je les ai vus, c'est vraiment extra, quoi. Ça a un format tout petit, je dirais, de la taille d'une demi-main, hein, sur laquelle on peut... Ce document donc, contient ce que tu dis, c'est-à-dire un travail
littéraire. Oui, une nouvelle, par exemple.
Nouvelle. Et puis, on y met un timbre et on envoie ça par la poste à qui on veut.
Oui, parce qu'en fait, ces petits livres font moins de 20 grammes ou 20 grammes jusqu'à 20 grammes. Voilà. Donc on peut mettre un timbre et les poster. Voilà.
Une idée de cadeau.
Et donc on a commencé à trois artistes à défricher tous les titres de cette collection et à envisager ce qui nous plaisait, puisqu'il nous semblait bien au téléphone. Et donc on a. Maintenant, on a commencé par faire un temps fort autour de ces éditions, mais on a aussi ça au répertoire, voilà. Les éditeurs, on les a rencontrés un petit peu plus cet été, lors du premier festival Salon du Livre d'auteurs et d'éditeurs des Pays de Loire. Ça s'appelle Les Affluences, c'était au printemps dernier. Voilà, et pour nous c'était une très belle opération pour faire découvrir de manière intime, au creux de l'oreille, des textes écrits ou édités ici. Donc il y avait à la fois le fait de dire au téléphone des textes écrits ou édités ici. Pendant toute cette période-là, on a dit des auteurs et des textes édités ici. Et puis sur le salon lui-même, on était là. Et on a, avec des tuyaux à l'oreille, soufflé des extraits de textes comme ça. Et les gens étaient vraiment... ils ont pu découvrir de manière pratique qu'est-ce que ça fait d'écouter un texte à l'oreille. Donc oui, j'espère qu'on va développer ça, oui.
Okay. Alors donc, en 2023, quelles sont les orientations que prend ce dispositif?
J'aimerais bien qu'on puisse développer d'autres choses avec les histoires au bout du fil, notamment le lien avec les programmations, les théâtres. Mm-hmm. Au début, ils nous ont été un peu méfiants parce qu'ils ont dit, mais enfin déjà, les gens ont perdu l'habitude de venir au spectacle. Si en plus vous leur proposez de rester chez eux pour écouter des choses, ça ne va pas. Et j'aimerais avoir le temps et l'occasion de leur faire essayer et de les convaincre que, au contraire, après le confinement, les théâtres, comme les cinémas d'ailleurs, ont perdu beaucoup de leur public qui s'est habitué à rester chez soi et qui s'est abonné à Netflix ou des choses comme ça. Et donc, je pense qu'on peut être un outil pour réamorcer la relation avec le public. C'est-à-dire, imagine que tu programmes tel auteur telle compagnie, je ne sais pas, dans 3 mois. Eh bien, nous, on peut soit dire des textes de cet auteur-là, des autour et alentours, comme un petit apéro pour donner envie, oui. Voilà. Oui. Soit d'ailleurs l'équipe elle-même qui a créé le spectacle peut proposer, comme elle propose des, ce qu'on appelle des actions culturelles sur le territoire, peut proposer des coups de fil avec soit des extraits de la pièce, soit oui, des mm-hmm. choses qui attisent la curiosité des gens. Voilà. Et puis les salles de spectacle, elles aussi, ça serait pas mal qu'elles prennent en compte le fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer de toute façon. Voilà. Donc ça pourrait être un moyen d'attiser la curiosité, de donner envie aux gens de venir au spectacle en écoutant d'autres choses. Ça, c'est pour les programmations. Pour les musées, je trouve qu'il y a vraiment un outil là qu'on propose qui est génial. C'est-à-dire que je fais une exposition temporaire dans mon musée sur tel thème. Mmh. Là aussi, les histoires au bout du fil pourraient être un vrai outil avant l'expo, avant la visite de l'expo ou après, pour entendre des choses, des textes, de manière vivante, puisqu'évidemment, au bout du fil, c'est quand même quelqu'un. Mmh. Voilà, donc ça pourrait être des comédiens, des chanteurs, des conteurs, des gens de notre équipe. Oui. Mais pourquoi pas, puisqu'on est oui. une plateforme, pourquoi pas un musée pourrait nous dire, ben moi, j'ai envie qu'à la fois votre équipe qui travaille là-dessus, mais j'ai des médiateurs qui oui. pourraient construire des petites capsules comme ça, qui donneraient envie de venir voir l'expo. C'est un outil vraiment génial, donc j'aimerais qu'on ait l'occasion de convaincre les musées du territoire là, de s'intéresser aux histoires au bout du fil. Comme...
Oui, donc vous pouvez faire des programmes spécifiques.
Mais oui, faire des programmes spécifiques, imagine. Mais oui, tu vois, par exemple, en ce moment, ça, pendant encore un petit moment, au musée d'histoire de Nantes, il y a un programme sur l'Inde. Bon, il se trouve que, par exemple, hein, ne serait-ce que ça, dans les artistes qui font partie de l'équipe, il y a Maud Trutet, Maud qui, elle, quand elle fait des histoires au bout du fil, elle dit, soit je vous chante quelque chose de mon répertoire, soit je fais une improvisation à partir d'un mot que vous me donnez ou de quelque chose, bon, voilà, soit je chante des chants sacrés, elle est un peu spécialiste, on pourrait dire. En tout cas, elle a beaucoup étudié les chants sacrés de l'Inde. Bon, c'est génial comme after ou comme apéritif, disons, comme teaser pour donner envie d'aller voir le spectacle. Moi, comme conteuse, je raconte depuis longtemps des extraits du Mahabharata, qui est quand même le grand texte de l'Inde, mmh. je pourrais. Et puis il y a une maison d'édition, par exemple, au musée d'histoire de Nantes, qui est directement liée au musée, qui édite des choses. On pourrait absolument, en relation avec des expositions à venir, construire des programmes spécifiques, et ce serait vraiment génial.
L'idée paraît vraiment très intéressante.
Donc ça fait partie des développements que je souhaite vraiment. Ouais.
Voilà, donc appel au musée, hein, si les musées sont intéressés pour nous contacter, vous contactez
absolument.
La compagnie La Lune Rousse, et après, la compagnie La Lune Rousse, très certainement, prendra rendez-vous avec vous.
Allô ?
Oui.
Oui, bonsoir. Marie-Mi ?
Oui.
Vous allez bien ?
Je connais, j'ai déjà fait.
Ok, vous avez déjà fait plusieurs appels.
J'ai fait une fois avec Histoire au bout du fil, et sinon pendant le premier confinement.
Ok.
Avec un théâtre de Paris, mais je ne sais plus.
Oui, c'était le théâtre de la ville, de la colline, peut-être.
Oui, je crois que c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Ok. C'était couvert. Ça a duré 3 quarts d'heure. C'était un petit peu plus long.
D'accord. Ok.
Il y avait 3 histoires.
Ok. Ouais. Bah, nous, ça va durer une petite 20 minutes.
Oui, non, mais c'est bien.
Le contexte, c'est que Last Weekend, c'est les nuits de la poésie.
Oui.
Et la thématique, c'est l'amour.
Oui.
Donc, j'ai récolté des petits textes autour de l'amour, ce qui peut être large. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous sentir libre de, après, des fois, un texte, de me dire ce que vous avez ressenti ou pas.
Oui, je sais.
Super. Bon, bah, génial. Bon, bah, on peut y aller. Moi, j'avais pensé pour commencer à deux textes. dont un texte tiré de paroles de Prévert. Alors là, j'ai deux possibilités pour Prévert. J'ai Cet amour, qui est un texte qui cherche l'amour. Et un texte qui s'appelle « Déjeuner du matin », qui est moi un de mes textes favoris, un peu plus court et plus empreint de tristesse, parce que l'amour, c'est aussi ça.
On prend le premier.
Le premier ?
Oui.
Alors.
C'est Clara, votre prénom.
Oui,
hein ?
C'est ça.
Ok.
Cet amour. Cet amour, si violent, fragile, si tendre, si désespéré. Cet amour, beau comme le jour, et mauvais comme le temps, quand le temps est mauvais. Cet amour, si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux, et si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant dans le noir, et si sûr de lui comme un homme tranquille au milieu de la nuit.
Une intervention au bout du fil de Clara Frère.
Cet amour qui lui faisait peur aux autres, qui lui faisait parler, qui lui faisait mourir. Cet amour guettait, parce que lui guettait.
Pourquoi pas d'image ? Pourquoi pas d'image ? C'est important parce qu'en fait, on vit quand même dans un monde d'images. Pendant le confinement, on a été tous saturés du travail à distance, en visioconférence, en visio-truc, avec Skype, avec Zoom, avec Teams, voilà. J'ai pas aimé, moi, les spectacles en visio. Ni théâtre, ni musique, et encore moins compte en réalité. Ça m'intéresse pas, moi, de voir le compteur dans son chez lui. Voilà. Bon. Par contre, avec l'audio, juste l'audio, on a une proximité, une intimité qui n'est pas la même. Et puis, puisque je ne vois pas l'autre, puisque l'autre ne me voit pas, donc je ne suis pas dans une relation de
séduction
ou bien de d'image sociale et tout ça. En plus, y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de montrer comment c'est chez eux. Enfin, surtout si, je ne sais pas, moi, je suis à l'hôpital, je n'ai pas envie qu'on me voit, quoi, en chemise de nuit. Donc, y a tout ça. Mais il y a aussi que les yeux fermés, par exemple, j'entends mieux l'autre, je suis plus près de l'autre. Et puis surtout, mon imagination a une très grande liberté, elle décolle complètement. C'est mille fois plus efficace. Y a eu des artistes, par exemple, au début, qui disaient « Moi, je proposerais bien aux gens de basculer vers Zoom, par exemple, comme ça, on se verrait. » Et puis, ils me verraient avec mon instrument de musique, par exemple, ou tous mes textes autour de moi et tout ça. Et je suis pas d'accord pour qu'on fasse ça. D'abord parce que souvent les gens, quand on leur dit « est-ce que ça vous dit de basculer vers Zoom ?», souvent ils n'osent pas dire non, même si ça ne leur plaît pas. Et puis ça enlève, de mon point de vue, tout l'intérêt de ce dispositif, qui est vraiment un dispositif où on est créateur de quelque chose ensemble, avec ce sens-là particulier. Oui, Aurèle parlait tout à l'heure de renouer avec le téléphone et le « oui ». Je dirais qu'il y a quelque chose comme ça, effectivement. Après, pour la deuxième partie de la question qui est-ce que c'est du spectacle vivant et en quoi ça reste du spectacle vivant ? J'ai l'impression qu'Aurèle y a pas mal répondu tout à l'heure, mais en tout cas, oui, c'est du spectacle vivant. C'est-à-dire que je suis un artiste et je suis en train de performer, on pourrait dire, de dire un texte, une chanson, quelque chose en direct pour quelqu'un. Donc oui. Il n'y a pas de doute, c'est du spectacle vivant. Et comme disait Aurèle aussi tout à l'heure, ça nourrit complètement mon travail de scène. Voilà, mais un artiste du spectacle vivant, il peut être sur scène, il peut être dans la rue, et il peut être aussi chez les gens, et il peut être aussi au téléphone. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une autre forme, c'est tout.
À l'autre bout du monde, sur l'île d'Unguja, royaume de Zanzibar, il y avait un mendiant. Cet homme avait tout perdu, d'un coup, comme ça, sans trop savoir pourquoi. Il avait perdu sa femme, sa maison, ses amis, d'un coup, comme ça. Un matin, il a roulé sa vieille natte trouée, c'est tout ce qui lui restait. Il est sorti du village, il a traversé la route et il est allé s'asseoir près du dépotoir. Il dort là désormais. C'est là qu'il cherche sa nourriture. Il fouille les ordures. Il trouve des grains de riz, des épluchures pourries, des lambeaux de viande sur des os que même les chiens ne veulent plus ronger. Et lui, il mange ça. Il mange cette nourriture dont les chiens ne veulent pas. Un jour, dans ce tas d'ordures, il trouve une pièce d'argent.
La chanteuse Aurel Salmon, au bout du fil.
Allô, allô ?
Allô ?
Ouais, Bénédicte.
Oui, bonjour Aurel.
Ouais, enchantée Bénédicte.
Enchantée.
Bénédicte, avant que nous allions plus loin dans notre petite séance, je voulais juste en profiter pour citer ce que nous venons d'entendre. Donc on parle d'une compagnie qui s'appelle La Lune Rousse et nous venons d'entendre un extrait d'un conte qui s'appelle Le mendiant et l'antilope, qui est un conte de la conteuse Paule Latorre, qui est une conteuse associée à la compagnie et qui fait partie des conteurs et des conteuses d'Histoire au bout du fil. Il se trouve que l'album de cette histoire a été primé coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2021. Voilà, j'ai fait un petit coup de pub.
Eh ben bravo.
Ouais, hein, on peut dire ça comme ça. Alors, eh ben voilà, moi mes histoires, Bénédicte, je ne sais pas si vous avez un peu compris, elles sont plutôt chantées. Ne vous étonnez pas, avant chaque chanson, comme je suis a cappella, vous allez entendre un petit son qui correspond à ma note de départ. Okay. Eh ben, elle commence en fa. Approche-toi de moi, monte le son plus fort, je veux sentir une dernière fois ton corps. Contre moi, tu pars en voyage, tu pars très longtemps, tu vas m'oublier un peu, c'est sûr, c'est certain. Je voulais te dire que je t'aime encore. Tu voulais me dire que tu m'aimes encore. Je t'en prie, chante-moi ce vieil air français, cette mélodie d'Éric Satie, je crois que c'est ça. Je voulais te dire encore. Oh.
c'est sûr, c'est certain. Je voulais te dire que je t'aime encore. Tu voulais me dire que tu m'aimes encore. Rapproche-toi de moi. Monte le son plus fort. Tu voulais me dire t'aimes encore. Oui, je t'aime encore. Que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes encore.
Waouh.
Ouais, moi aussi, waouh. Moi aussi, je vais prendre quelques secondes pour redescendre.
Ouais, voilà. Merci, moi aussi.
Voilà, des paroles d'Arthur H. sur cette gnossienne numéro 1 d'Éric Satie. Et depuis le temps que j'entends cette chanson, que j'écoute ces chansons et que je me dis un jour je la chanterai, eh bien c'est aujourd'hui.
Eh bien bravo, c'était magnifique.
Voilà.
Et, merci beaucoup.
Et les histoires au bout du fil, et les chansons au bout du fil, ça sert à ça aussi.
Mais ouais,
ça sert à essayer des trucs.
C'est magique.
Voilà. De jolis cobayes. Vous faites de jolis cobayes. Bénédicte, jolis cobayes. Suite du voyage. On va rester sur un Fa, mais alors là, comme dans tous les voyages, attention, il peut y avoir des montagnes russes. Ça donne un petit peu d'ambiance, ça donne un petit peu de volume. Là, vraiment, on part dans complètement autre chose. Et il se trouve que celle-là est également une première pour moi. Cobaye Bénédicte, êtes-vous prête?
Je suis prête.
Parfait. Nous reprenons un Fa.
Merci Angel Goduchot. Donc l'émission C'est pas pour dire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de cette édition spéciale autour d'un dispositif particulier qui a apporté pas mal de choses à beaucoup de gens, et en espérant que ça continue. Voilà, au revoir à tous, à bientôt.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.
A dream.